journée.
Ça va une vitesse. Point commun avec vous du matin tôt et du bientôt midi. Ah ben, à l'écoute des décodeurs. Ah voilà, vous écoutez pas en même temps, mais la même chose. Les mêmes jeux vous sont servis, nourris par les idées jolies, rigolotes de ces quatre décodeurs et décodeuses que je nomme cette semaine Pascal Vincent.
Mais bonjour.
Mais bonjour Loulou. Laura Chénia.
Eh bien bonjour.
Marc Denemonet.
Bonjour Madame Laurent.
Bonjour Monsieur. Et Kaya Guner.
Guten Morgen.
Oh, tiens, en allemand, mais pourquoi pas. Les voilà bien installés dans la salle Canisius, si je ne m'abuse, du domaine Notre-Dame de la Route, à Villars-sur-Glâne. Nous sommes dans le district de la Sarine, c'est le canton de Fribourg, bien entendu. Notre partenaire de jeu est neuchâteloise d'origine, mais elle est de partout, en fait, sur les chemins d'ici et d'ailleurs. Elle est monitrice de randonnée, Béatrice Béguin.
Bonjour.
Bonjour. Et alors c'est vrai que l'humain marche depuis la nuit des temps, pour différentes raisons, hein, on va dire, évidemment, c'est tout à fait clair. Que pensez-vous, Béatrice Béguin, de ce constat de Pétrone? Alors Pétrone, écrivain romain, il est mort en 66. Voilà, ça fait un petit moment, hein, on
ça
peut dire.
Ça fait 3 ans.
Pétrone, je cite, « Avoir marché quelqu'un, on connaît sa pensée ».
Intéressant.
C'est pas inintéressant, je pense, mais je pense que vous pouvez l'analyser peut-être mieux que nous qui sommes un petit peu plus néophytes dans le domaine de la marche. Marcher, c'est se défaire des pensées encombrantes, on l'a déjà dit, si on y arrive, celles qui nous font gamberger en rond, hein, et puis ça dégage la tête donc de marcher. Mais il faut insister un petit peu.
Absolument.
Voilà. Et puis après, c'est vrai que ça va. Alors quand on marche, Béatrice Béguin, sur la Via Jacobi ou ailleurs, pendant plusieurs jours, il faut évidemment trouver quand même un endroit où dormir, un endroit où manger. Hein. Ça inquiète beaucoup les décodeurs, ça on l'a vu déjà depuis hier et avant-hier. Est-ce que c'est évident à trouver? Vous nous direz ça en fin d'émission, d'accord?
Volontiers.
S'il y a des trucs, des combines, et puis si on peut y aller aussi au petit bonheur, la chance.
Oui. C'est surtout laver ma troisième culotte qui m'inquiète.
Quelle couleur vos culottes?
Petit non, je rigole. Clin d'œil à Laura.
J'arrive à vivre avec que 3 culottes. Imaginez comment c'est facile.
C'est facile à vivre.
Tu vois,
on se rappelle que tout pendant qu'on papote, d'autres personnes marchent peut-être quelque part en Suisse, justement sur la Via Jacobi, c'est le tronçon suisse des chemins de Compostelle. Alors aujourd'hui, 14 juin, ça va être Spitz Waltenville, si je ne m'abuse. Voilà, il y a deux variantes. Hein. Variante A, Spitz-Waltenville. Variante B, Gümlingen-Rügisberg. Et vous savez qu'à la fin du parcours, à la fin de l'étape, il y a une petite surprise, enfin un petit événement qui est proposé. Alors, pour ceux qui arrivent à Waltenville, ça sera Histoire du chemin de Saint-Jacques. Intéressant. Quelqu'un qui va nous raconter ça. Alors, peut-être en plusieurs heures. Non, je plaisante.
Ah, faut se taper une conférence après la marche.
Non, ça doit être court, ça doit être sympa. Ou alors, pour la variante B, si vous arrivez à Rügisberg, bah, lui, ce ne sera pas le cas de Marc Denemonet parce qu'il est à Villars-sur-Glâne. Mais il y aura un événement surprise dans les ruines.
Ah, c'est le concert de Morisot.
Ah, mais non. Ah, ça a vendu. Ça a
vous
vendu
êtes une hippie, évidemment. Mais ce n'est pas possible, ces garçons et ces filles. Bon, mesdames et messieurs, allez voir pour la suite des étapes, etc., du parcours, www.viajacobi4.ca. Voilà, pour celles et ceux qui marchent pour se faire du bien à la tête, au corps aussi peut-être un peu. Et on est le 14 juin, hein, y a les femmes qui marchent
aujourd'hui, ouais, j'allais dire.
Dans les rues cet après-midi, partout, effectivement. Alors là, c'est marcher pour une cause, mais ça existe beaucoup, hein, de marcher pour des causes, pour en défendre, évidemment. C'est pas la même marche que sur la Via Jacobi, mais je pense qu'on peut aussi la faire, la même sur la Via Jacobi. Enfin, voilà. Voilà l'esprit de la journée d'aujourd'hui aussi,
ouais,
effectivement.
Elles en ont plein de sacs, elles.
Celles-ci, elles en ont plein de sacs, c'est vrai, parce qu'il y a encore des choses à faire évoluer, on est tous d'accord avec ça. Nous, on va marcher en direction du premier jeu de ce jeudi. Ça va être vite fait. Hop. Et on arrive autour d'un chien. Béatrice Béguin, Lassie, ça vous dit quelque chose? Mm-hmm. Mais oui, il y a un petit pétard. Série télévisée qui date de Pombon. Hein. Et puis, il y a encore des films aujourd'hui, enfin récemment. Donc, ça reste encore là. Dans cette série télévisée, Lassie est une femelle. Tout le monde est d'accord? Toutes celles et ceux qu'on vit, voilà. Nanana. Eh bien, figurez-vous que cette femelle est interprétée par un mâle. Il y a une raison à ça. Laquelle, Laura Chénia?
Eh bien, parce que selon le vétérinaire de la série, les chiennes comme Lassie, donc des collets à poils longs, perdent trop de poils. Voilà, virer la chienne. Et attention, hein, ce n'est pas une démarche solidaire avec les femmes de ménage qui nettoient les poils du chien sur le tournage, alors qu'elles se sont déjà tapées les poils donnés de leur mari dans le lavabo et la calvitie dans les draps, les poils dans la main de leur adolescent en mue et les poils sales du souper de la veille. Non, 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 c'est pas ça. Non, là, si, on a préféré un mâle parce qu'une femelle qui perd ses poils, elle n'a pas son meilleur pelage toute l'année. C'est une raison esthétique. On est en 1954, on aurait dû se douter que ça allait dégénérer. Et paf, 30 ans plus tard, les femmes se rasent les sourcils pour se les teindre. Non mais quand même, on veut que ça soit propre, beau et tous les mêmes. Moi je parie qu'en 2080, on rase les boules des mecs. Mais on rase, on enlève tout, on échange par des jolies balles de ping-pong en silicone.
On enlève les boules, quand
même. Comme ça, ça sera propre, beau et toutes les mêmes. Et ça semble absurde comme ça, un peu intrusif, mais est-ce que c'est pas ce qui se passe dans les culottes des femmes depuis des décennies ? Propre, beau et toutes les mêmes.
Mais quand tu parles de boules, c'est les bulldogs ou les boules terriers ? Quand on parle de chiens ?
On parle de Lassie, si vous êtes d'accord pour l'instant. Oui, vous parlerez hors antenne de tout ce que vous voulez. On en vient à Lassie et on demande en fait, n'est-ce pas, Cahier du Nerf, pourquoi Lassie a été interprétée par un mâle alors que dans l'histoire, c'est une femelle.
Oui, pourquoi c'est la question. Oui, serait-ce pour une raison de cachet, la Lassie femelle aurait-elle demandé plus que le Lassie mâle
ça,
et la production aurait refusé. Malheureusement, même dans la race canine, malheureusement, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Question salaire, le chien reçoit toujours plus d'os à ronger qu'une chienne et c'est regrettable. Non, c'est pour une question morphologique. Dans la série, on voit souvent Lassie dressée sur ses pattes arrière. Or, la femelle collée ne peut pas se mettre debout en équilibre sur ses deux pattes arrière sans se casser la gueule à cause de ses hanches qui lâchent, alors que le mâle, lui, le peut. On ne sait pas trop pourquoi, mais il a une meilleure stabilité.
Gna, 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 gna.
Non, mais c'est pas gna, 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 gna.
Elle pose des questions, puis quand on répond, elle nous casse. C'est tout l'horreur.
À la limite, je vous constate un ouf, 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 gna, 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 gna.
Oui, pardon, vous avez raison.
Pas crédible.
Ok, merci, je note votre réponse.
Gna, 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 gna.
Et j'écoute Pascal Vincent.
Non,
et tout le monde.
Pas, j'ose pas.
Il a peur maintenant.
Tu vas te prendre un gna, 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 gna.
Bon, je donne ma réponse. Laurence, vous écoutez pas.
D'accord, je mets les doigts dans les oreilles.
Alors, si vous voulez. Si vous êtes intéressé d'acquérir un chien collé, vous serez tout de suite frappé de la différence de prix suivant son sexe. Le toutou coûtera une fois et demie à deux fois moins cher que la toutoute. La toutoute collée. Et cette différence de prix s'est retrouvée également dans les assurances nécessaires au tournage demandé aux productions pour faire tourner les chiens. C'est donc pour économiser quelques dizaines de milliers de dollars seulement que Lassie est en fait le si.
Mais ça, personne ne le sait. Que c'est pas le bon nom, mais c'est vrai que voilà. Ok.
J'ai eu peur.
Gna, 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 gna. T'as pas fait, toi.
J'ai eu peur.
Marc Donnet-Monet, s'il vous plaît.
La chienne Lassie était interprétée par un mâle, un chien, donc tout simplement parce que c'était un excellent acteur.
Mais oui, mais fallait y penser.
Capable de tout jouer.
Ouais, joue bien, hein.
C'était d'ailleurs déjà illustré dans la série Belle et Sébastien.
Ah, c'était le même.
Où il jouait le rôle de Belle. Dans Rintintin également, il avait le rôle titre. Et alors ça, c'est moins connu, il avait le rôle principal dans Flipper le dauphin. Parce que sa palette de jeu était tellement
énorme,
qu'il pouvait tout faire. Et il a terminé sa carrière en interprétant Alf, un extraterrestre.
Ah oui.
C'est pas son meilleur rôle parce qu'il pouvait pas s'empêcher de vouloir manger le chat tout le temps, ce qui n'était pas dans le scénario à la base. Mais enfin, il a fait une belle carrière. Voilà.
C'est rigolo tout ça. Bon, alors, dans la série, à vous maintenant de débrayer, de débroussailler, hein, évidemment, Béatrice Béguin. Dans la série Lassie, Lassie est une femelle et pourtant elle est interprétée par un mâle. La question, c'est pourquoi ? Parce que, nous dit Laura Chénia, la femelle perd ses poils. Mais le mâle, non, il a un beau pelage. Donc, c'est la même chose. C'est ces femelles qui sont plus faiblardes, c'est agaçant. Pour Kaya Gunner, le mâle, il est plus sable quand il est sur ses pattes arrière. Mais il n'y a pas besoin de se mettre sur les pattes arrière, je veux dire.
Non, mais dans la série, elle est tout le temps...
D'accord. Pascal Vincent nous dit qu'en fait, c'est une différence de prix. Parce qu'en fait, le mâle est moins cher que la femelle. Ça, c'est quand même dingue. Mais la femelle, elle porte, je pense, je ne sais pas. Pourquoi
ça, je ne sais pas. Elle apprend mieux ses répliques, je ne sais pas.
Et pour Marc Donnet-Monet, Lassie est interprétée par un mâle, mais parce qu'en fait, c'est un excellent acteur, ce chien-là. Il était parfait. Donc, oui, c'est vrai, c'est ça.
Moi, je l'ai adoré dans Flipper.
Béatrice Béguin.
Rôle à Oscar.
C'est pas simple. Hein.
Alors, je vais partir sur Pascal.
Pascal Vincent.
Nous partons sur un Pascal en entrée.
Mais... C'est gourmand.
C'est gourmand. C'est gourmand. Généreux. C'est indicateur des saveurs.
Mais pour la consistance, il aurait fallu choisir la réponse de Laura Chénier, en fait. Ouais. Parce que c'était la bonne, oui. Dans la série télévisée Lassie, Lassie est une femelle, mais interprétée par un mâle, car selon le vétérinaire de la série, les chiennes collées, à poils longs, donc, perdent beaucoup de poils. Et c'est vrai qu'elles perdent, en fait, leur fourrure une fois par année. Et ça pouvait déranger le tournage, parce qu'effectivement, elle est jolie, puis elle est un peu plus comme elle a la pelade. À un moment donné, ça ne va pas du tout. Donc, impossible pour une femelle de se présenter avec son meilleur pelage toute l'année. Donc, on a choisi de prendre un mâle qui, lui, ne bouge pas. Il est toujours bien peigné, tout bien. Vous avez laissé filer le point, Béatrice Béguin, c'est pas grave du tout. On applaudit le septième une deuxième fois, allez. Est-ce qu'il y en a qui se promènent sur les chemins de Compostelle avec des animaux, justement?
Oui. Bah,
je pense à des chiens, forcément. Mais...
Les chiens, ça arrive. Certains qui ont même leur propre sac à dos avec leurs croquettes.
Ah oui. Ah oui, ça fait du bon.
Et puis... Des ours, il y en a, pour poser pour la question de Pascal? On croise des animaux...
Des ours, non. Alors, par ma connaissance, sur les chemins, on croise souvent des ânes, des chevaux aussi.
Des lions.
Qui font le chemin aussi.
Des lions, parce que les chrétiens avec les lions, souvent, il y a une espèce d'interaction qui est assez connue.
Il y a un certain lien, oui.
Il y a un petit lien.
Est-ce que tu pourrais te taire?
Oui.
Merci.
Elle est à cran cette semaine, Laurent.
Ah, là, je ne sais pas.
Non, mais je profite.
Qu'est-ce qu'elle trouve.
Allez, enchaînons. Jeu football, Béatrice Béguin. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous appréciez? Est-ce que vous jouez?
Mais pas du tout.
Pas du tout, du tout. Je vais en faire le chemin de Compostelle et puis s'arrêter dans les étapes quand il y a une Coupe du Monde ou quand même pour voir les matchs. Non, ça se fait pas. Il y en a peut-être qui le font. On peut allier plusieurs sports. Alors, la question est la suivante. L'équipe de foot française est surnommée, ça vous le savez peut-être quand même, Béatrice Béguin.
Les Bleus.
Mais oui, vous voyez, ça veut dire tout dingue. L'italienne, la Squadra Azzurra. Ils sont bleus aussi, hein, mais voilà, autrement dit. Comment est surnommée l'équipe de football du Portugal? Voilà la question que je pose aux décodeurs décodeuses de ce jour. Première réponse, Pascal Vincent.
L'équipe portugaise est surnommée la Leixlaço Chivoldi.
Merci.
Ce qu'on peut traduire en gros par la valise en carton rouge.
Bon, j'ai mis comme je, plus ou moins... comme.
Non, je vous l'écris juste, si vous voulez. Vous ne savez pas écrire Leixlaço
Chivoldi. J'ai mis Leixlaço Chivoldi, vous le dites. Non, mais vous me le redirez.
Il y a l'hymne Leixlaço Chivoldi.
Mais dis donc, bien.
Leixlaço Chivoldi.
Bon, enfin, je ne sais pas si ce qu'il dit, c'est vrai.
Leixlaço Chivoldi.
Ok, c'est ça, l'équipe portugaise. Non, Marc Donnet-Monnet, c'est quoi pour vous?
Pardon, Laurence.
Pardon, vous n'avez pas fini.
Non, enfin, c'est juste une parenthèse.
Oui.
Vous avez remarqué qu'à aucun moment de ma définition, je n'ai parlé du restaurant le portugais de mon ami Fernando Martins. Alors que là, franchement, c'était la porte ouverte, j'aurais pu le
faire.
Parce
que j'ai remarqué que c'est un gimmick que tu as chez toi. Souvent, tu aimais parler de ce restaurant portugais.
Oui, mais
et
voilà.
Ça, des fois, ça nous gonfle un peu, mais là, tu as été impeccable. Mais,
alors,
franchement, tu n'en as...
Parce qu'il n'a pas parlé de quel restaurant portugais, alors
le portugais, c'est pour voir du pont d'Arves.
Même pas une allusion.
Rien.
Bah, c'était un peu lourd, des fois.
Mais je comprends.
Non, mais je le dis franchement, je te parle franchement, tu es un ami.
Et j'ai fait le chemin.
Mais de parler tout le temps du restaurant portugais.
J'ai fait le chemin de Saint-Jean de Compostelle et là j'ai eu une révélation.
Ouais, tu t'es dit, il faut que tu arrêtes de parler de ce restaurant.
Il faut que j'arrête de parler du restaurant le portugais.
Parce qu'on n'a pas le droit de faire de la pub à l'antenne.
En plus,
imagine, tu dirais tout le temps le restaurant portugais à Genève.
Ça
on pourrait avoir des problèmes.
Mais quoi, alors que je paye quand j'ai mangé là-bas.
On a joué là-bas une fois.
Exactement, avec Pierre Maudet.
Où on a joué?
Avec Pierre Maudet.
Absolument, c'était Pierre Maudet, mais il y a longtemps alors. Il était encore mouillé dans les oreilles.
C'était où? Dans quel restaurant?
Au portugais à Genève.
Bon, on en revient à l'équipe de foot portugaise. Si vous êtes d'accord, on demande à Marc Donnet-Monnet comment elle s'appelle.
Oui, alors l'équipe de football portugaise s'appelle la Bacalhau.
Ah oui, alors,
c'est le seul mot portugais que je connais. Vous commencez pas à m'embêter.
Plus ou moins bien dit.
C'est vrai que c'est facile d'inventer des trucs. Un 15 juin, on est à 2 semaines des vacances. La Bacalhau. Mm. Et l'équipe de réserve s'appelle la Bolos de Arroz. C'est le deuxième mot en portugais que je connais, c'est des pâtisseries à base de riz, en fait.
Ah,
ouais, de l'Orlandis à la Migros.
Je ne vais pas la ramener, mais il n'y a pas qu'à la Migros. Hein.
Ouais, peut-être qu'on peut.
Alors, il y a la COP, il y a la Placette, oh là là. Mais
non, il y a
aussi
le restaurant portugais à Genève.
Est-ce qu'on pourrait écouter Kay Gunner sur le nom de l'équipe de football du Portugal?
Oui, alors chouette, on va parler un peu football. Ça commençait à nous manquer, surtout pour notre invité qui adore ça. Hein. Quand on voit le pognon, les magouilles qu'il y a dans le foot, ça fait vraiment plaisir de voir nos gamins grandir avec stickers Panini dans les cours d'école. On se dit que c'est mieux ça plutôt qu'ils trafiquent avec des drogues. Mais est-ce que les stickers Panini, c'est pas aussi une forme de drogue? Question. Je rappelle la définition du mot drogue. Toute substance psychotrope, psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central, modifie les états de conscience susceptibles d'entraîner une dépendance psychique ou psychique, physique. Je peux vous dire que certains gosses, ils n'ont pas leur panini au petit déjeuner, ils sont capables de te planter le couteau entre tes deux yeux. Bref, on sait que Lionel Messi va toucher 1,2 milliard d'euros sur deux ans s'il joue en Arabie Saoudite, ce qui nous fait du 600 millions par an, le double de ce que touche CR7. CR7 qui n'est pas une pile 3 volts, mais le surnom de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est drôle parce que d'un côté on a Cristiano, de l'autre on a Messi. Alors venez pas me dire que le football, c'est pas une religion. CR7 est portugais et son équipe est surnommée la Seleção das Quinas. En référence au drapeau du Portugal et ses 5 blasons bleus, à ne pas confondre avec la Seleção, la seule et unique, celle du Brésil, qui a, elle, à 5 étoiles sur le maillot, symbolisant ses 5 titres de champion du monde, alors que le Portugal, même avec ses 5 blasons sur le drapeau, n'a jamais été sacré campeão mundial, mais s'appelle quand même la Seleção, et le restaurant portugais est au boulevard de la... Ah, je reconnais ton écriture, là. Attends, est au boulevard du Pont d'Arbre, à Genève.
On écoute Laura Chénia, s'il
vous
plaît.
L'équipe de football du Portugal est surnommée la Linda de Sousao. C'est le seul mot en portugais que je connais. Et la deuxième équipe, c'est la Dança Kudurusao. Voilà.
Tu vois, ils connaissent quand même deux mots à chaque fois. C'est assez impressionnant. Bon, j'ai l'impression qu'on vous aide dans cette affaire. Béatrice Béguin, vous n'y connaissez rien dans le foot. Mais enfin, voilà, vous allez trouver le nom, le surnom de l'équipe de foot du Portugal. Pour Pascal Vincent, c'est là.
C'est la Leichlafsouchevoldi.
Voilà.
La valise en carton rouge.
C'est vrai, ça se dit comme ça?
Oui, Leichlafsouchevoldi.
Là, dis donc. C'est
la
incroyable.
La valise en carton rouge.
Là, je me fais souligner. Et pour Marc Donnet-Monnet, la Bacalao, donc ça, on connaît tous un peu le mot. Kay Guner dit la Seleção. Vous avez rajouté Das Quinas.
Oui. Parce qu'il y a une autre Seleção.
Oui, ben, c'est la brésilienne. Ouais. Brasil. Et pour Laura Chénia, la Linda de Sousao. Donc, je pense que... Vous allez attraper le point, là, je le sens.
Alors, je ne vais pas répéter, mais je pars sur Kaya.
Kaya Guner.
Alors, on part ensemble.
La Seleção. C'est la sélectionnée, en fait, la sélection.
La Seleção,
en fait,
ouais, la sélection.
Si on veut traduire ça, effectivement. Parfait. Vous avez un 8e point grâce au foot, hein, je vous signale.
Vous adorez ça, toujours.
Oui, non, mais c'est vrai, c'est des choses qui... Voilà. Bon, avant de passer à la suite, Étienne Dao, nouvel album, c'est son 13e, Tirer sur la nuit, ça s'appelle, vous savez, Tirer la nuit sur les étoiles. En fait, Étienne Dao s'est inspiré de ce que faisait Franck, comment il s'appelle ? Sinatra.
Ah, sinon.
Franck Sinatra avec Ava Gardner, ça n'a rien à voir. Hein. Franck Sinatra, Ava Gardner, on est dans les années, je ne sais pas, hier, avant-hier, là, un petit peu. Et puis, quand ils sont tombés amoureux, semble-t-il qu'ils sont partis dans le désert. Et ils ont tiré sur les étoiles. Alors, ça, c'est Sinatra, donc avec des armes, les Américains, ils sont tous des cow-boys, donc il faut qu'ils tirent. Ça, c'est un peu con, mais en même temps, regardez les étoiles, et puis viser comme ça. On peut viser avec les yeux, ça va aussi bien, hein, probablement. Il s'est inspiré de ça, Étienne Dao, pour l'album qui s'appelle Tirer sur les étoiles. Et le titre qu'on va écouter maintenant, c'est le même titre, et qu'il interprète avec Vanessa Paradis. Vous l'avez sûrement déjà entendu.
Aux portes du désert, à la frontière de nos interdits. Interdits. Surfer sur une mer légère quand la nuit éclaire nos folies ordinaires. Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Sur les étoiles, la nuit nous appartient. Wow. Premier étreinte au matin pâle, lis ton destin au mien. Wow. Serait-ce l'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde? Seconde, je t'ai dit oui, je t'ai dit oui. Pour danser au bord de ton abîme, il fallait les rives, mon improbable cime. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. matin pâle. Lis ton destin au mien.
Chanson maintenant, mes côtés décodeurs. Et décodeur sans S, en l'occurrence, Béatrice Béguin. Un seul décodeur, une seule voix, celle de Pascal Vincent. Alors, le décodeur solo a le droit de choisir le titre qu'il va interpréter. Il a jeté son dévolu sur un titre. Alors, c'est assez étonnant, hein, en fait, ce titre. Je ne connaissais pas. Juste un rigolo que chantait Carlos. Évidemment qu'il y a un joli clin d'œil à Just Gigolo.
C'était surtout pour ça que je l'ai repris.
Louis Prima, hein, évidemment, parce que là, on est dans un côté plus jazzy, tout plus comme ça. Après, ça vaut ce que ça vaut. C'est un ancien titre. Hein, et Louis Prima l'a rendu célèbre, mais il existait déjà avant. OK, très bien.
David Leros aussi, chanteur de Van Halen, qui l'a repris de manière assez...
Il y a plein de gens, effectivement. Qui absolument. Alors, trois couplets pour vous, Béatrice Béguin, pour tout le monde hein, d'ailleurs. Et puis, vous cherchez celui qui appartient à la chanson de Carlos, alors là, du coup.
Yes, Olivier Magaroto.
Et bien sûr, Olivier Magaroto pour l'accompagnement.
Hey, je suis juste un rigolo qui aime pas les trémolos, qui préfère le rire aux larmes. Juste un fou du roi, et le roi, c'est toi, toi. Messieurs, dames, je pourrais te chanter qu'une fille m'a quitté. Mais que mon petit cœur y saigne. Mais bye bye les sanglots, je suis juste un rigolo. Sèche tes yeux, ça baigne. Je suis juste un rigolo, pas un prof de judo. Mais je fais gaffe quand même à mes chutes. Je passe à la radio, je mange des choquitos. Je dis rarement zut. Je dois plus froisser les dames. Plus d'accent sinon c'est le drame. Moi ben de bon, bienvenue en 2023. Je suis pas sadomaso. Je suis juste un rigolo. Tête tendue, détends-toi. Danse pas en dessous de la ceinture. Ah ben non. Sinon c'est la censure. Pam pam cucu, la déconfiture pas en dessous de la ceinture. Ah non, sinon c'est cancel culture et nos futurs. Arrête ton char pénure solo. Alors, est-ce que tout le monde rigole? Mais j'ai dit tout le monde. C'est l'histoire d'un belge, non? Quand on va pidou, 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 dame. Je suis juste un rigolo qui parle dans un micro, qui pour un bon rire se damne. Je crains pas les coups de ciseaux, les coups de sirocco, ni le méthane. Il faut rire de tout avant d'aller dans le trou. Faut pas se prendre la tête. Je vous refuis le filon, moi je suis juste un rigolo. Tu souris, c'est chouette. Wow, mais y'a pas de cancel culture. Ah ben non, sinon c'est la déconfiture. Pam pam cucu, la dictature. Pas de cancel culture. Ah ouais. Sinon c'est la déconfiture. Wab de baby di bab di bab. Olivier Magaroto.
Ah, là il est content. Olivier Magaroto, il est un peu plus dans son domaine. Un domaine, vous savez, c'est un pianiste extraordinaire de jazz et de ça.
Ah, dès qu'on reprend du Carlos, il est là. Hein.
Ça doit être ça.
On est dans sa tranche.
Alors, est-ce que vous avez apprécié ça, ce moment,
beaucoup.
Béatrice Béguin.
Magnifique.
Il y avait trois couplets, donc le bon couplet.
Je dirais le premier.
Eh ben, vous avez parfaitement raison. Mais j'allais dire sur les... Quand on marche, est-ce que Vous écoutez la musique ou non? Il faut écouter la nature. Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a tout hein, chez les marcheurs et les marcheuses.
Il y a tout. Moi, j'ai croisé des gens qui écoutaient le match de foot
ah, oui,
avec un haut-parleur.
Ah,
heureusement, c'est rare.
Oui.
Mais ça arrive. Disons, la plupart des gens marchent quand même les oreilles libres.
Parce que le but aussi, c'est ça, c'est de se nettoyer la tête, c'est d'observer, c'est de voir les petites fleurs, les petits insectes, de les entendre, les bzzz et tout ça. Voilà. C'est
exactement.
Ça. Et les courants.
Il y a un truc avec les casques. Moi, alors, des fois, je ne marche pas, mais je cours avec des casques. C'est horrible. On entend le boum 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 du casque, on entend le cœur qui bat, on entend le. C'est trop de bruit. C'est trop de bruit.
Ça va aller,
trop
Pascal,
de stress.
Ça va,
c'est trop encombrant.
J'arrête de courir.
Calme-toi, Pascal. Calme-toi.
Ah, oh, ça m'énerve.
Donc
ça nous fait
compris.
Quel âge? Ça nous fait
oui,
quel
vraiment.
Âge
De plus que toi, tu veux dire ou
Est-ce qu'on a applaudi ce 9e point? C'est le 9e point pour Béatrice Béguin. Voilà, il faut faire les choses dans l'ordre. Hein. Alors, sur le chemin de Compostelle ou ailleurs, sur tous les chemins, on peut randonner évidemment dans d'autres endroits. Le but de la marche, c'est d'aller à son tempo. On est d'accord, Béatrice
oui.
Béguin.
Oui, oui.
On peut traîner si on veut, on peut marcher de manière plus sportive et vigoureuse, pourquoi pas. Est-ce que marcher, c'est aussi bien 20 minutes que 6 heures par jour?
Ah oui, ah oui. Ouais. Ça, tout est possible. Après, on est justement sur la problématique des hébergements quand on...
Là, c'est pour durer plus longtemps. Hein.
Quand on marche plus longtemps, parfois les hébergements sont distants de 20 km, on est un peu obligé de faire les 20 km, on n'a pas de choix.
C'est comme ça, hein. Parce que sinon, vous êtes au milieu de la nature et vous êtes perdu. Hein, donc,
et si on ne trouve pas de chambre, c'est-à-dire si c'est complet, on va...
On va en parler de ça.
Ah, d'accord. Alors
non, mais si vous voulez, voilà. Mais il y a toujours, une solution, je peux imaginer.
Oui,
mais
oui,
on en reparlera. J'aimerais juste signaler, mesdames et messieurs, qu'il y en a qui courent et qui marchent, enfin, surtout sur la Via Jacobi en ce moment. Et l'arrivée, c'est prévu le 23 juin à Genève. Mais j'aimerais vous signaler que ce vendredi 16 juin, c'est l'arrivée dans les terres romandes, je dirais, n'est-ce pas? C'est ça?
Tout
du côté de Fribourg. Et il faut saluer le parrain de cet événement.
Absolument, Joseph Dyes.
Joseph Dyes, effectivement, on savait que c'était un grand marcheur. Joseph Dyes, qu'on salue bien. Et Joseph Dyes, qui a été un des invités, on en a eu plusieurs, mais qui nous ont retrouvés pendant la période du semi-confinement oui. où chacun était at home. Lui, il était chez lui, puis on se voyait. Enfin, c'était extrêmement compliqué, donc on le salue bien parce que ouais, c'était vraiment pas évident.
Il y avait un gros décalage à chaque fois qu'il répondait.
Oui, ben voilà, c'était pas forcément
évident. C'était génial.
Mais absolument, c'était rigolo. Et donc lui, effectivement, on savait que c'était un marcheur, donc c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Oui. Et donc, c'est le parrain de Via Jacobi 23.
Tout à fait.
De cet événement là, en ce moment-là. Donc, parfaitement bien.
Et il sera présent vendredi.
À l'arrivée à Fribourg.
À l'arrivée à
Alors,
Fribourg.
On est tout près de Fribourg. Là, ça arrive où à Fribourg, dans la ville?
Alors, dans la vieille ville.
Mmh. D'accord.
Ouf, ça descend, ça monte, ça descend.
Ouais. Voilà, si jamais, ça sera pour le 16 juin, ça sera vendredi. Donc, hein, parce que là, on quittera la partie suisse-allemande pour arriver en terre romande, effectivement. Pour l'instant, nous sommes à Villars-sur-Glâne. Il va y avoir les informations, donc on va se taire quelques petits moments pour se retrouver après pour la suite de nos jeux aussi. Le rappel des titres, on se retrouve pour la suite de cette émission d'Icodeuse, juste après.
RTS Info, Margot Reguin.
Non coupable, la déclaration de Donald Trump hier devant un tribunal fédéral de Miami. Elle ouvre la voie à un procès historique et potentiellement très dommageable pour sa campagne en vue de la présidentielle de l'an prochain. Quelques heures plus tard, l'ancien président américain a qualifié d'abus de pouvoir odieux son inculpation. Il est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en ramenant des documents confidentiels de Washington à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Nouveaux affrontements au nord du Kosovo hier. C'était entre des policiers kosovars et des membres de la minorité serbe dans une ville ethniquement divisée. Et ce, au moment où le premier ministre du Kosovo annonçait un plan pour tenter d'apaiser les tensions qui minent la région depuis des semaines. Il proposait notamment de nouvelles élections. Guerre des chiffres entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine affirme que ses forces écrasent la contre-offensive ukrainienne, tandis que Kiev assure avancer. Le président russe a en revanche admis que son pays n'était pas suffisamment préparé aux attaques sur son sol depuis l'Ukraine. Journée de mobilisation en Suisse aujourd'hui. Les femmes descendent dans la rue pour faire valoir leurs droits. L'égalité salariale figure au cœur des revendications. Des actions auront lieu dans toutes les grandes villes du pays et dans de nombreuses entreprises. À Berne, le Parlement tient un débat spécial sur l'égalité. Tous les candidats pour la commission d'enquête parlementaire sur la débâcle de Crédit Suisse sont connus. L'UDC et les Verts libéraux ont choisi les leurs. La présidence de la CEP sera désignée aujourd'hui. Difficile toujours par moment de se connecter à certains sites internet de l'administration fédérale. Il continue d'être la proie d'attaques de pirates informatiques, affirme le Centre national pour la cybersécurité. Il précise ne pas connaître les motifs des agresseurs, mais rappelle que c'est un groupe associé à la Russie. Le deuxième jour du procès de 6 policiers lausannois poursuivis pour homicide par négligence pour la mort de Mike Ben Peter s'est tenu hier à Renon. Une dizaine de témoins ont défilé à la barre. La famille a demandé que justice soit faite. Le procès se poursuit aujourd'hui avec l'interrogatoire des policiers par leurs propres avocats. Fribourg Olympique est à nouveau champion de Suisse. Le 21e titre du club de basket et le 5e consécutif. Il est obtenu en s'imposant face à Massiane Nugno dans l'acte 4 de la finale des play-offs de SB League. Et puis en cyclisme, la première étape de montagne du Tour de Suisse a souri à Mathias Kelmose. Le Danois s'est imposé sur ce parcours de près de 144 km dans les Alpes vaudoises. Il s'empare également du maillot jaune de leader. L'étape d'aujourd'hui sera valaisanne. Les coureurs iront de monter à Loche-les-Bains.
Durant la nuit, La Première vous propose une nouvelle diffusion des meilleurs moments de la journée.
Vous allumez le poste, les voilà. Ça c'est un petit peu la conséquence et le risque, si vous voulez, à ce heure-ci. Ils arrivent, ils et elles vous sautent dessus, ou dans les voitures peut-être, dans la cuisine, dans la salle de bain, à vos alentours. Comme des loutres dans une mare. On peut imaginer ça comme ça, parce qu'ils sont très joueurs, ces décodeurs et décodeuses. Mais ça ne vous éclabousse pas, ça, c'est déjà pas si mal. Les voici, Laura Chénia, Marc Donnet-Monnet, Kaya Guner et Pascal Vincent, cette semaine. Ouais. Pardon, ici, un domaine, à Villars-sur-Glâne, domaine Notre-Dame de la Route, où ils et elles rencontrent une marcheuse qui en connaît des routes, on peut dire, des chemins plus droits que d'autres, peut-être, des chemins de traverse, plus plat, plus en pente, un peu caillouteux, je ne sais pas, il doit y avoir toutes sortes de façons de marcher, en fait, toutes sortes de chemins, pour autant qu'on puisse simplement mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre, tout simplement, et à son rythme, bien entendu. Notre invitée, c'est Béatrice Béguin. Oui. Bon, Marc Donnet-Monnet, est-ce que vous êtes un marcheur un peu, beaucoup, passionné?
Eh bien, je m'y suis mis, je voulais en parler, parce que j'ai téléchargé une application...
Ça va.
On va aller devant.
Alors d'accord, vous allez discuter, dialoguer devant le public, ça marche. Marc Donnet-Monnet et Béatrice Béguin.
Mais ça fait tellement plaisir de vous rencontrer, Madame Béguin. Vous
avez bien...
Mais oui. C'est incroyable, mais hier j'ai téléchargé une application, un podomètre. Je ne savais même pas que ça existait, j'avais oublié. Et qui compte le nombre de pas.
C'est ça.
Ouais, 7000 pas j'ai fait aujourd'hui. C'est un début.
C'est un bon début.
C'est quoi un truc pour dire je suis un bon marcheur?
Ah, on dit que pour être considéré comme non sédentaire, il faut 10 000 pas par jour.
Moi je suis presque alors.
Mais
un
oui.
Un petit effort, exactement. Comment on commence?
Mais tous les jours, hein?
Tous les jours, exactement. Tous les jours. C'est ça, exactement. Ouais. Saint-Jacques de Compostelle, donc c'est un peu la marche mythique. C'est quand même religieux, ou bien la plupart des gens qui vont là-bas.
Alors ça l'a été,
ouais.
Par le passé.
Mais je veux dire, il y a plein de grenouilles de bénitiers partout.
Alors
il y a des nonnes.
Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais c'est vraiment plus la majorité.
C'est plus la majorité.
Non.
Mais est-ce que les gens qui vont, quand quelqu'un me dit j'ai envie de faire Saint-Jacques de Compostelle, même s'il n'est pas croyant, je me dis il y a quand même une recherche, un truc spirituel, parce qu'on peut aller marcher partout finalement.
On peut dire spirituel au sens large, exactement.
Au sens large, d'accord, exactement. C'est plat. C'est plat ou bien ça monte, ça descend?
Alors, c'est varié. Il y a des parties plates.
Ouais.
En Espagne, par exemple, il y a une plaine qui est connue, la plaine de la Meseta, où on marche 150 km tout plat et tout droit.
Plein soleil. Il faut quand même avoir sa gourde. Hein.
Il vaut mieux.
D'accord. Quelles sont les belles randonnées qu'on peut faire en Suisse romande? Alors, je vous donne chaque canton. Vous allez me dire si par hasard vous connaissez. Le canton de Fribourg, par exemple. Est-ce qu'il y a une belle randonnée à faire dans le canton de Fribourg?
C'est le quiz.
C'est le quiz. Non, c'est pas pour vous tester. C'est pour des conseils qu'on peut donner aux gens.
Mais le chemin de Saint-Jacques traverse le canton de Fribourg.
Ouais.
Avec des très, très beaux passages, notamment par le pont Sainte-Apolline, qui est tout près d'ici, qui est peu après Villars-sur-Glâne.
D'accord. Donc ça, c'est la randonnée que vous conseillez dans le canton de Fribourg.
Alors, c'est la randonnée que je conseille dans le canton de Fribourg.
D'accord.
Oui.
Vaud.
Alors, Vaud, pareil.
Mais si on vous parle de Saint-Jacques de Compostelle.
Non.
Dites-nous.
Bon, toute la région du Lavaux est
oui.
très, très, très belle.
Oui.
avec...
Parce que vous faites aussi des petites marches comme ça, un peu plus modérées en Suisse romande, donc pas...
Oui.
Ouais, d'accord. Laveau,
ça
donc,
m'arrive.
Le laveau.
Deux heures, c'est pas aussi. Ouais.
Le valet. Il y a plein de trucs à faire, un valet. Canton qui est, que j'aime bien. Alors, vous allez marcher en valet?
Oui, ça m'arrive. Il y a une course que j'aime beaucoup, c'est la montée au Grand Saint-Bernard.
Ah oui, bah magnifique. Ça grimpe, hein?
Ça grimpe pas mal. Ouais. Et ça vaut la peine.
Ouais. Montée, le Chablais, non, rien. C'est pour un ami.
Je connais moins.
Vous connaissez moins le Chablais?
Non.
Ah, bah ça, c'est grosse erreur, alors. grosse erreur, alors.
Vous me présenterez votre ami. Puis...
Exactement, voilà. Le Jura, vous connaissez un peu le Jura?
Moins aussi. Je connais un peu le Jura bernois.
Ouais, grosse erreur.
C'est pas...
Non, pas du tout, pas du tout. On embrasse, on embrasse,
hein,
on embrasse.
C'est la même chose. Mais...
Oui, oui, c'est
mais
très joli.
Mais ça compte aussi.
Neuchâtel?
Alors, Neuchâtel, bon, il y a bien sûr le Creux du Vent, il y a toutes les vallées.
Oui, et j'ai la honte, j'ai jamais allé au Creux du Vent.
Ah, ça faut.
C'est la honte. Non, c'est la honte totale, mais c'est un projet vraiment d'ici 10 ans.
Ouais. Les voilà. Crêtes du Jura, très
les
bien.
Les Crêtes du Jura, exactement.
Qui passe par le Creux du Vent.
Ouais. Et Genève, enfin. Est-ce que ça passe par Genève, le chemin?
Oui,
oui, le chemin.
Mais tu écoutes depuis le début de la semaine, Marc? Ok, oui, oui, j'ai pas tout écouté, je reconnais. Ouais, mais je suis tellement émue que ça soit la dernière semaine de Laurent que j'arrive pas à me concentrer sur tout ce qu'elle dit. D'accord. Et pourquoi on a envie d'y retourner, en fait? Pourquoi les gens en attrapent le virus, cette drogue-là? Qu'est-ce qui attire?
Mais c'est difficile à expliquer. Je crois que chacun vit une expérience... qui est de l'ordre, qui est un peu addictive en fait, qui donne envie de revenir. Je pense que c'est ce contact avec soi-même, le fait de laisser ses soucis aussi du quotidien derrière soi, de se concentrer sur l'essentiel. On a peu de...
Est-ce qu'il faut fuir quelqu'un? On dit tiens, j'ai envie, je peux plus le saquer, allez, je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais pour des raisons spirituelles. Non, il n'y a pas des gens qui fuient
Moi, je pense qu'il y en
a déjà.
Oui.
Ouais.
Ça peut arriver.
Il y a peut-être pas mal de gens qui sont pas bien dans leur peau, en fait. Non, mais je vais y aller. Je vais y aller. Très bien. Alors, on commence comment? On peut pas faire Saint-Jacques-de-Compostelle comme ça. Il faut quand même s'entraîner un petit peu, j'imagine.
Mais on peut partir. Je pense que l'important, c'est d'avoir un bon équipement.
Ouais.
Et puis de faire des petites étapes au début.
C'est vrai, on n'a pas parlé ça de l'équipement encore cette semaine.
Et puis, on a parlé un peu de faire son sac.
Oui.
Très bien.
Mais si on fait des petites étapes, on peut très bien y aller sans entraînement.
Exactement. Bon, bah, je vous choisirai comme coach de vie.
Ah, c'est
comme
sympa.
Coach. Très bien. On ira partir. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice Béguin.
Well, she's the gal in the red blue jean. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she. My baby, my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby. My baby, my baby. Let's rock again now. Bye-bye.
Papaloola, I don't mean my baby. Papaloola, she's my baby. Papaloola, I don't mean my baby. Papaloola, she's my baby. My baby, my baby.
Un peu de botanique, Béatrice Béguin. Et d'ailleurs, ça fait partie un peu des choses à découvrir en marchant, hein, la flore, évidemment. Donc voilà qui est intéressant. Alors, quelle est la particularité des plantes hémiépiphytes? Eh ben ouais, de Dieu dans la salle, de Dieu.
De Dieu.
Hein, hémiépiphyte, ça épate. Cahier Guinère.
Oui, la nature est incroyable. La plante hémiépiphyte l'est aussi. Hein. C'est une plante qui permet à deux variétés différentes de pousser en harmonie sur elle. Par exemple, quand on cherche s'en détruire dans un champ de fleurs, par exemple, on peut très facilement trouver une cerise et une pastèque sur une même branche,
ah, voilà.
Une même tige, un peu comme quand on cherche un trèfle à quatre feuilles pour se porter chance. Avec un peu de persévérance et de chance, on peut en trouver un. Par contre, un trèfle à cinq feuilles, ça n'existe pratiquement pas. Et pourtant, un type en se promenant avec son chien à cinq pattes, qui lui cherchait des truffes avec les deux siennes, eh ben, le type a trouvé un trèfle à cinq feuilles qu'il a mis en vente sur Ricardo, site de Commercius, à 1,12 million d'euros, avec la description « une œuvre d'art de la terre-mère ». Eh bien, croyez-le ou non, il y a un autre type qui s'est porté acquéreur,
oh là là là,
pendant quelques heures après la mise en vente. Pour finalement se rétracter, il a dû penser que c'était un faux.
Incroyable. Ok, d'accord. Ouais. Deuxième réponse, Laura Chénia.
Alors, ce sont des plantes qui peuvent se reproduire longtemps après avoir fané. Voilà, parce que les graines, elles survivent sur la fleur morte. Et quand elles le sentent, bah voilà, elles partent, chill, faire leur petite vie ailleurs. Elles sont de très performantes mauvaises herbes. Même au compost, sous 14 tonnes de croûte de melon, elles peuvent se faire des marmots plein le jardin en septembre, par exemple. Moi, j'ai une copine parisienne. Elle a fait le truc à la mode à Paris en ce moment, congeler ses ovocytes.
Ah,
et
bon,
si on y pense bien, elle est un peu hémiépiphyte, hein, non? Donc oui, c'est un procédé qui permet soit de lancer ensuite une PMA, soit de faire don du précieux butin, ou de s'assurer d'avoir du matos fertile au congélo, à côté des calipos pour une éventuelle grossesse gériatrique. Attention, hein, 35 ans, la grossesse gériatrique. Ouais, les femmes, à 35 ans, on peut tomber sur un ou une médecin qui nous parle de notre grossesse gériatrique. On
mais
est
non,
dans cette catégorie. Ouais.
Non, 35.
Oui, répète à une fleur qu'elle est fanée, elle tiendra une semaine de moins qu'au bouquet à qui tu dis qu'il est éternellement beau. Mm. C'est ça le secret. C'est pas ta crème anti-rides, c'est juste ce qu'il y a écrit dessus. Mine de rien, tous les jours, tu te regardes dans la glace et tu lis. Éclat, brillance, élégance, luminance, beautance, fraîchance, jeunance. Attention, attention, je ne veux pas mettre en opposition les genres, hein, parce qu'au foot, les hommes jouent chez les vétérans à 30 ans, s'ils le veulent. Répète à ton mec de 30 ans qu'il est de la catégorie des VT, c'est sûr, d'ici la fin de semaine, il se fait les ligaments. Hein. Elon Musk, je suis certaine, il congèle ses ligaments, au cas où. Il a tout congelé.
Oui, je
tu
pense.
Ouvres son congélateur, il y a une voiture entre les petits pois, un cœur artificiel sous les steaks hachés, des tubes de semences entre deux paquets de glace fusée et une fusée dans le cul de la dinde. Sûr. Tout ça pour perpétuer l'espèce ailleurs dans l'espace s'il le faut, alors que la planète fait tout pour nous indiquer que là, c'est bon. Hein, fini la fête, assez rigolé, vous dégagez les humains. Mais nous, on est ce groupe de touristes. Vous savez, à l'étranger, en plein enterrement de vie de garçon, on est bourrés. On a bien fait n'importe quoi en discothèque et là, il y a le videur qui nous fout dehors. Mais nous, on fait quoi? Eh ben, on passe chez Picard, on dégèle du matos, allez hop, et on va foutre le bordel dans une autre boîte de nuit. Enfin voilà, vous imaginez une nouvelle civilisation humaine sur une autre planète? Grâce à tous ces hémiépiphytes, ça donnerait un monde fait de bébés parisiens ou de mauvaises herbes.
Aïe, aïe,
ça dépend
aïe
du point de vue.
Oui. Ouais. Particularité des plantes hémiépiphytes, Marc Tonnet-Monnet.
Une plante hémiépiphyte est une plante qui vit une partie de son cycle biologique sur une autre plante. C'est-à-dire qu'elle pousse sur une autre plante, un arbre par exemple, dans les parties supérieures de l'arbre. Puis, lorsque ses racines ont atteint le sol, sa croissance s'accélère et elle finit par étouffer l'arbre qui lui sert de support. L'exemple le plus connu étant un arbre qui s'appelle le figuier étrangleur. Ça fait un peu fait entrer l'accusé. Ça, il pourrait faire une émission sur le jet. Tadam, tadam, le figuier étrangleur. C'est qu'un connard d'arbre. Et pourtant, il tue tous les jours. Il aura fallu 15 000 ans pour que la justice s'intéresse à son cas. Sur le banc des parties civiles, les familles des arbres qui ont été étouffées. Oh ben nous, tout simplement, ce qu'on demandait, c'est la justice, quoi, qui paye pour ce qu'il a fait. Les jurés vont suivre les demandes du procureur et condamner le figuier étrangleur à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 130 millions d'années pour tous ses descendants. Une décision qui met fin à la plus longue saga criminelle du figuier étrangleur. Tintin, tintin. J'ai eu énormément de plaisir à vous faire cette parodie de Faites entrer l'accusé. Je tiens à le dire parce que des fois, on nous dit vous êtes des fonctionnaires, tout ça, pas du tout. On fait des métiers passion. On fait ça avec tout notre cœur. Et là, je n'ai jamais la moindre lassitude ni fatigue, même si c'est vrai que là, dans 2 semaines, je suis en vacances.
Ah bah, ça, c'est
tadam, tadam.
Ok, tadam. Dernière réponse concernant cette plante. Comment vous dites, Pascal Vincent?
Je dis oui. D'accord. Et Mipifit.
Bravo.
Béatrice Béguin, est-ce que vous êtes économe?
Épiphyte.
Oui.
Ouais. Alors, peut-être pas plus que moi, parce que moi, je suis très économe. J'ai d'ailleurs mis au point une très bonne technique pour économiser de l'argent sans se sentir frustré. Ça pourra peut-être vous intéresser. Une technique qui pourrait bien me valoir un petit prix Nobel d'économie un de ces jours. Vous voulez que je vous la donne, ma technique?
Oui.
Bon, et le public? Oui, je vous la donne dans ce cas-là. D'accord. Alors, par exemple, l'autre jour, j'étais en ville. Je vais chez Globus dans l'idée de m'acheter une bouteille isothermique qui m'avait tapé dans l'œil quelques jours avant. C'est bobo, mais écolo, une bouteille isothermique. Et en plus, celle-ci, elle avait un look trop bien. Elle était bien. Et bon, je l'avais vue. Je la saisis pour aller la payer. 55 balles quand même. Oh, 55. Wow. Là, c'était le logo que je payais. Juste avant de passer à la caisse, je vais la reposer en me disant « Non, quand même, c'est un peu cher. » Bam! 55 balles d'économiser.
C'est bon, ça.
Du coup, je repars. Je regarde un ou deux trucs au passage, comme ça. Je vais pour prendre mon bus. Et puis, à l'arrêt de bus, je me dis « Dommage, je ne suis pas tous les jours en ville. Quand même, elle était belle, cette bouteille isothermique. » Alors, j'y retourne pour l'acheter. Et là, exactement le même processus, rebelote au moment de la payer. Sincèrement, et là, je me dis, non, mais en fait, je peux vraiment m'en passer. Et je vais la reposer une deuxième fois. Bam! Donc, j'en suis déjà à 2 × 55, 110 francs d'économiser. Ouais, 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 ouais. Je me dirige hyper fier vers la sortie. Là, je passe devant les fringues et je vois, alors vraiment par inadvertance, un t-shirt sympa. 180 balles, dis donc. Ah oui, je suis chez Globus, là, c'est pas Lidl, c'est vrai. Mais bon, je me dis, hey, mec, tu viendrais pas d'économiser 110 balles. Hein? Donc, 180 moins 110, ça te revient à 70 balles seulement. Trop bonne occasion, la belle occasion. Et j'achète le t-shirt. Et en allant prendre mon bus, tout élégant, tout content, je me dis que comme je viens de faire une super bonne affaire, je peux quand même me payer un petit plaisir superflu pour me récompenser. Et donc, je retourne voir ma bouteille isothermique. Et cette fois, je l'achète. Eh oui, génial la technique. Non seulement j'ai économisé 110 balles, mais j'ai fait une bonne affaire en ne payant que 70 francs un t-shirt qui en valait 180. Et en plus, je me suis octroyé un petit plaisir. Ce qui m'aide à ne pas trop penser aux 235 francs que je viens de dépenser.
Au bout du compte.
Voilà, prix Nobel, c'est pour moi. Les plantes hémipiphytes sont les plantes les plus chères du monde en droguerie. Et pour cause, c'est avec elles qu'on fait la poudre de perlimpinpin et la poudre d'escampette. Mais je ne tiens pas les autres.
Bravo, bien joué. Tout est une question d'attitude, hein, ouais. Et de point de vue, évidemment. Alors, quelle est la particularité, Béatrice Béguin, des plantes hémiépiphytes? Pour Cahier du Nerf, ce sont des plantes qui permettent à 2 variétés différentes de grandir ensemble.
Oui.
Si j'ai bien compris.
La cerise, la pastèque, par exemple.
Oui, des qui n'ont rien à voir, hein, effectivement. Laura Chénia nous dit que la plante hémiépiphyte peut se reproduire après avoir fané, oui, longtemps après, oui, avoir fané.
Plusieurs mois.
Voilà, donc c'est très sec, mais ça peut reprendre vie autrement. Marc Donnet-Monnet nous dit que cette plante hémiépiphyte vit une partie de son cycle biologique sur une autre plante, et puis elle continue sa vie, elle zigouille l'arbre hôte, si j'ai bien compris, c'est ça?
Oui.
Que vous le reprochez. Et voilà, donc c'est dans la nature, il y a des trucs dingues. Et pour Pascal Vincent, la plante hémiépiphyte, c'est la plus chère des plantes en droguerie parce que on y fait de la poudre de perlimpinpin ou d'escampette, ça veut tout dire. Hein. Béatrice Béguin.
Bon, ben, dans le doute, je vais choisir Marc.
Mais vous avez raison.
Ah, alors, Non.
Ça, c'est la marche.
Quand il fait le pigeon, c'est que ça doit sortir. Une plante hémiépiphyte. H-E accent aigu, M-I-E accent aigu, P-I-P-H-Y-T-E. Non, il comprend. Une plante hémiépiphyte est une plante qui vit une partie de son cycle biologique sur une autre plante. Alors, par exemple, les graines des figuiers étrangleurs, oui, transportées par des oiseaux, germent dans les branches supérieures d'un arbre hôte. Elle s'installe, pouf. Et puis, cet arbre-là, cette plante-là se développe. Elle a des racines aériennes qui vont vers le sol. Et quand les racines aériennes ont atteint le sol, la croissance du figuier s'accélère. Il finit par étrangler l'arbre hôte qui meurt par étouffement.
Mais ce n'est pas un parasite. C'est-à-dire qu'il ne se nourrit pas de la sève de l'arbre. Il l'enserre.
Donc, la question, c'est est-ce qu'on pourrait lui demander pourquoi il tue ?
Ça pour le plaisir.
Pourquoi il tue ? Oui, alors par plaisir, oui, enfin, ouais. Secours. Bon, on va pas aller plus loin dans l'analyse de tout ça, mais saluer, mesdames et messieurs, le 10e point de Béatrice Béguin. Bravo ! Tout va bien, Béatrice Béguin ?
Oui, oui.
Mais ça irait peut-être mieux avec un 11e point. Ça va dépendre de votre défi.
Lorsqu'on marche plusieurs jours sur le chemin de Compostelle, les pieds sont très importants. On s'intéresse beaucoup à leur confort et on trouve toutes sortes d'astuces pour les protéger, éviter les cloques, etc. Mmh. Parfois, on aurait bien besoin d'un coup de pouce. Qu'est-ce qu'un pouce-pied ? Qui s'appelle pouce comme le doigt, P-O-U-C-E, tiret pied.
Tiens, un pouce café, un petit remontant ?
Non.
Une semelle ?
C'est un objet ? Matériel ?
C'est concret.
Oui. Okay.
C'est de la glace ?
Non.
C'est un bâton arrondi pour se masser la plante des pieds ?
Non.
Si.
Non, mais c'est tout reculant.
C'est de la watt ?
Non.
C'est un waveboard ?
Non.
Une trottinette, un truc qui ça aide à avancer, concrètement ?
Non.
Mais c'est un truc qu'on se met dans les chaussures ?
Non.
Ah ouais, ok.
Ah non.
C'est genre un massage.
Vous posiez la question si c'était un objet. C'est pas un objet inanimé.
Ouais.
Il faut élargir.
C'est un soin. C'est un soin qu'on peut se faire faire dans les relais.
C'est pas un soin, c'est pas un Doberman.
Non. C'est pas une carotte. Enfin, c'est un peu la carotte pour se faire avancer, quoi.
Non.
C'est une autre paire de chaussures, en fait.
Non.
Un pain de pied.
Ah. Elle a l'air tellement heureuse quand elle dit non.
Elle savait que vous l'auriez pas, celui-là. Alors, dites-nous.
Donc, vous étiez assez pouce-pied loin.
Ah. Ouais, elle rajoute derrière, vous étiez assez loin. C'est du bonheur, elle n'a pas besoin de faire Saint-Jacques de Compostelle.
En fait, c'est un crustacé.
Ah ouais ?
Ah mais oui, c'est vrai en plus.
On met dans la chaussure.
Qui vit fixé aux rochers qui sont battus par les vagues. Et en fait, pour les défis, j'ai choisi uniquement des choses qui sont liées au chemin de Saint-Jacques. Et là, le lien avec le chemin de Saint-Jacques, c'est que c'est un crustacé qui a des aires de production qui sont très, très limitées. Et une de ces aires de production, c'est Muxia, en Espagne, à l'extrême ouest de la Galice, qui est le point le plus éloigné qu'on peut atteindre après Saint-Jacques de Compostelle. Donc, c'est au bord de l'océan. Il n'y a vraiment que les pèlerins et les pèlerines les plus courageux qui vont jusque-là.
Et on se met ça dans la godasse, c'est de la maltraitance animale, ça.
Courageux ou accro ? Ça veut dire qu'ils ont fini le parcours et ils continuent de marcher.
Exactement.
On peut devenir complètement dépendant, genre maladif, à la marche ?
Je ne voudrais pas me
addict,
prononcer.
Comme beaucoup
addict,
tôt,
ouais.
Oui, ouais, sans doute.
Ouais, ouais. Sans doute. Après, il y a besoin, il y a besoin.
Mais je n'ai pas très bien compris à quoi ça servait.
C'est un bon repas, quoi.
C'est un crustacé, donc ça se mange.
Ça se déguste.
C'est un réconfort.
C'est un peu la carotte dont je parlais, quoi. C'est une image.
Alors, et... C'est vendu à prix d'or dans les restaurants de Muxia. Et puis en fait, si on veut décrire cette chose, c'est assez particulier. C'est une sorte de doigt assez court, à peu près 5 cm, qui est composé de cette partie-là. Et puis
oui, on voit bien,
prolongé par des sortes d'angles. On dirait que c'est sorti d'un film fantastique.
Ah oui.
Mais ça fait du bien quand on s'arrête.
Ça doit être bien.
Faire 5000 km pour manger ça, oui.
Pour manger un pouce, quoi.
Ah, avec l'océan, là, tout ce côté.
Mais c'est surtout pour un 11e point.
Ah.
Wow. Un défi gagné. Wow. Béatrice Béguin, bravo.
Oh my God.
Bien joué. continue de parler de la Via Jacobi, de Compostelle, de marché, marché, marché. Demain, bien entendu, ici à Villars-sur-Glâne, dans le domaine Notre-Dame de la Route. Belle suite de mercredi, tout le monde. Ciao.
La première vous offre l'heure.
Bonjour à toutes et à tous. Très bon début de journée. Bonne matinée à vous. En ce mercredi 14 juin, c'est la matinale qui démarre, il est 6h.